Voilà, je dis, on va prendre un texte qui a fait énormément couler d'encre. Il y en a deux. Il y a deux épîtres de Paul. La première, et je vous avais amené, donc, rappelez-vous, je vous avais amené, donc, toute une explication. La première qui a fait énormément couler d'encre, qui en fait encore couler, c'est quand Paul dit « Toute autorité vient de Dieu et nous devons obéir à toute autorité ».
Et pas mal, hein.
C'était donc, on avait vu, je vous avais amené comment il fallait le comprendre et comment il fallait analyser. Hein, donc, je ne vais pas y revenir dessus, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et il y a un deuxième passage dans les Corinthiens, à 1 Corinthiens 11, du 3 à 16, qui lui aussi a fait couler énormément d'encre, qui a été interprété de diverses manières. Et nous allons voir comment nous devons comprendre ce texte et comment aussi nous devons avoir une analyse critique. Parce que Dieu demande aussi que nous soyons critiques. Il demande d'analyser. Il nous demande de nous repositionner, de nous remettre en marche dans ce qu'il a prévu pour nous. Alors, si ça s'affiche, si ça ne s'affiche pas, ben je vais vous le lire. 1 Corinthiens 11, versets 3 à 16. Alors, j'ai vu qu'il est en anglais. Je ne suis pas un spécialiste de l'anglais, mais vous allez voir l'humour de Dieu. Il se trouve que je vais vous donner deux phrases en anglais. Vous voyez ? Alors, vous m'excuserez l'accent. J'ai un accent d'Oxford et je n'ai pas celui de Cambridge. Pour ceux qui sont de Cambridge. Bien.
Je vais le faire en français.
J'aime autant.
Alors, 1, 11, 13,
voyez qu'aujourd'hui, la technique était au point. Voilà. Alors, 1 Corinthiens 11, 3, 16. Alors, je n'ai pas tout à fait la même version, mais c'est pas grave. Non, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Le Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Le chef du Christ, c'est Dieu. Bien, il y a déjà une hiérarchie, on va essayer de la comprendre. Si donc un homme prie ou prophétise la tête couverte, il outrage son chef. Ça paraît bizarre tout ça. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasé, ben là, c'est plus compliqué.
Non, non, mais je vais tourner parce que tu es de ton pied devant.
Voilà. Qu'elle se voile.
Voilà. Donc je reprends mes esprits.
Donc tu fais continue. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité.
Donc,
reviens.
Alors, attends. 13, c'était combien, là ?
C'était juste avant. 9, 10, 10.
Vas-y.
Ah oui, mais je vais mettre... 10, voilà. Voilà. Alors, je vais insister sur un mot. C'est pourquoi la femme doit avoir une marque de l'autorité dont elle dépend. Vous comprenez pourquoi après. Continue.
Ton plateau, Michel.
Hein ?
C'est ton plateau qui gêne.
Ton plateau,
Michel. Ah, c'est mon plateau qui gêne. Oui, mais alors je vois le pilier. Là. Bon, après je le remettrai là. Vas-y, on continue, je le remettrai. C'est pourquoi donc la femme, à cause des anges, doit avoir la tête une marque de l'autorité dont elle n'est pas. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Continue. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ? La nature elle-même ne nous enseigne pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Ouais. Voilà, je vais me remettre là. Donc, ils n'ont pas l'habitude de contester. Alors, il semblerait que le dernier verset, c'est « circulaire, rien à voir ». Comme ça. Hein? Quelqu'un se plaît à contester. Nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Donc, il semblerait que la messe, comme on dit, soit dite, et qu'il n'y ait plus rien à dire, et que la femme se voile, point. Alors, on a coutume de dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est la parole de Dieu. C'est pas ici que nous allons le nier. Pour autant, doit-on l'appliquer à la lettre ? Est-ce qu'on doit se conformer à tout ce qui est écrit ? Autrement dit, ne pas l'adapter à notre temps et à notre société. Est-ce qu'on doit continuer à garder à la lettre ce qui est écrit ? Ou nous devons au contraire avoir cette vision dynamique ? Devons-nous vivre comme au temps de Moïse ou de Jésus, si on l'applique à la lettre, porter des sandales, des djellabas, des longs cheveux? En fait, je dirais que bien sûr que la Bible est la parole de Dieu, mais elle est surtout pour nous, la pensée de Dieu pour nous, la pensée pour toi, la pensée pour moi. Et cette pensée, elle est dynamique, elle est constructive, elle ne s'embarrasse pas des traditions et du religieux. Parce qu'elle est peine et vie. C'est une source de joie et de bénédiction pour ceux et ceux et celles qui se laissent, j'allais dire, gagner, qui se laissent pénétrer par cette pensée, une pensée de vie, une pensée vivante, une pensée qui avance. Elle nous renvoie aussi l'image sans concession de nous-mêmes, qui nous sommes réellement, sans phare, sans subterfuge, car elle ne ment pas. Et nous ne pouvons pas nous mentir à nous-mêmes. Elle est vérité. Alors, il faut bien le dire qu'il y a un décalage considérable entre le contexte social, culturel, intellectuel de ces textes fondateurs et le nôtre. Ce n'est pas un fossé, c'est un gouffre. Il y a, entre la révélation chrétienne et notre société contemporaine, de très gros écarts de mentalité, de représentation du monde, de connaissances scientifiques, qui n'existaient pas à l'époque, physiques, connaissances physiques, aussi les connaissances de l'homme, que ce soit dans le domaine de la médecine, de la psychologie, etc., etc., etc. Il y a aussi des différences fondamentales de préoccupations, de modes de vie, de culture, qui font qu'à l'évidence, telle qu'elle, la religion du temps des premiers chrétiens n'est plus compatible, n'est plus, j'allais dire, possible aujourd'hui. La seule solution pour le christianisme, c'est quoi? C'est de s'adapter, sinon il est condamné, ce qui est d'ailleurs vrai, j'allais dire, pour tous les organismes vivants dans ce monde. Sinon, on devient un petit peu ce qui se passe dans l'islam, c'est-à-dire tous ceux qui ne veulent pas évoluer, qui veulent vivre comme au temps du prophète, entre guillemets. Vous voyez toutes les dérives que cela peut amener, tous les fondamentalistes. Alors une certitude que nous avons, c'est que les choses changent, le travail change, les habitudes changent, les modes de vie changent, même l'économie change. Mais Dieu nous a créés avec la faculté de nous adapter au changement. Certaines personnes ont du mal à s'adapter à ce changement, c'est sûr. Il y en a qui disent constamment, ah, de mon temps les choses étaient mieux, il n'y avait plus de respect, plus de chance, etc., etc. Mais si nous ne veillons pas à nous adapter aux évolutions, nous nous trouverons très vite en décalage avec les gens qui nous entourent. Et si Dieu nous invite à changer, c'est qu'il ne veut pas que nous restions figés dans nos pensées et dans nos actes. S'adapter au changement, c'est une nécessité. Et nous devons garder le cœur ouvert aux nouveautés. Mais cela ne doit pas être non plus une raison pour faire n'importe quoi. Changer pour changer, sans aucun réel motif, c'est davantage un signe d'instabilité que d'adaptation. Et cela nous amène à notre texte d'aujourd'hui concernant le port du voile. Que de controverses, interprétations, mauvaises lectures, et au final combien de femmes ont été soumises, contraintes, aliénées dans leur liberté et leur relation personnelle avec Dieu. Soit à l'inverse, se sont montrées rebelles et en toile de fond, ont tout rejeté. L'eau du bain et le bébé qui va avec. Les trois grandes religions monothéistes, Le christianisme a été la première à imposer le voile aux femmes. C'était la première. En avançant des arguments strictement religieux, c'est-à-dire en incluant le voile dans une démonstration théologique. Dans les écritures monothéistes, la Bible hébraïque, le Nouveau Testament, le Coran, seule la première lettre de Paul aux Corinthiens justifie le port du voile par les femmes en l'appliquant au rapport qu'ont les hommes et les femmes à Dieu. L'intérêt particulier de ce texte est d'avoir généré tout un discours sur la tenue des femmes et de leur avoir durablement imposé de se couvrir la tête dans tout le monde chrétien. Alors que, écoutez bien, le voile des femmes n'était auparavant qu'une pièce de vêtement d'origine païenne, qui était localisée dans les villes des pourtours de la Méditerranée, aussi bien en Occident qu'en Orient. De nombreux pères de l'Église, aussi bien en Orient qu'en Occident d'ailleurs, ont repris et commenté le texte de Paul pour en garantir la portée législative, je veux dire universelle. Et le texte de Paul pose un problème majeur. L'apôtre a fondé dans ses épîtres une théologie cohérente, celle du salut en Jésus-Christ, qui renvaine toute autre espèce de justification par les œuvres. On est sauvé par grâce, non par nos œuvres, afin que nul ne se glorifie. C'est-à-dire par l'obéissance à Christ. Et cette libération rend tous les chrétiens, sans distinction de sexe ou de statut social, égaux face à Dieu. Nous sommes tous égaux face à Dieu. En revanche, en écrivant son texte sur le voile des femmes, Paul contredit ouvertement sa propre théologie. C'est-à-dire d'un côté, il nous dit qu'il n'y a plus de barrière entre Dieu et nous, que nous sommes tous libres, que nous sommes tous égaux devant Dieu. D'autre côté, il va imposer un voile d'origine païenne. Alors, il y a certainement une raison. Je dirais que cette théologie étonnamment libératrice n'a pu se débarrasser complètement des coutumes du monde auquel il appartenait et qui était marquée à cette époque-là par la soumission de la femme. Et il ne parvient pas à franchir le pas. Il récupère en effet la coutume essentiellement païenne, on va voir comment, du voile des femmes pour, j'allais dire, quelque part contrôler les sœurs qui auraient pu croire que la liberté leur était offerte au même titre que les hommes. Et il a du mal à admettre que sa théologie puisse déboucher sur des conséquences pratiques, l'égalité entre les sexes. Cette première lettre de Paul aux Corinthiens est donc le premier écrit des religions monothéistes, comme on l'a vu, avoir lié le voile des femmes à leur relation avec Dieu. Et ce passage, comparé à d'autres textes de Paul et aux coutumes païennes de son temps, permet de distinguer deux courants, la tradition théologique et les coutumes du monde. Cependant, il convient de noter, et je l'ai marqué en gras, que dans la Bible hébraïque, quand je parle de la Bible hébraïque, je m'entends, je veux dire l'Ancien Testament, hein, on ne trouve aucune trace de cette coutume. Absolument pas. Ce n'est qu'une simple tradition juive qui a longtemps considéré qu'une femme devait se couvrir les cheveux en signe de modestie devant les hommes. Les propos de Paul concernant le port du voile sont donc à replacer dans le contexte du premier siècle. Qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? Le voile de la femme mariée faisait partie des accessoires principaux de sa tenue vestimentaire. Il symbolisait la solidité de l'engagement, la fidélité au vœu du mariage et sa stabilité. Il était la marque de la modestie féminine. Mais il symbolisait également l'autorité du mari sur son épouse. Et de ce fait, se dévoiler signifiait vouloir rompre les liens du mariage. Il faut bien comprendre ça. À cette époque-là, une femme qui se dévoilait signifiait publiquement qu'elle voulait rompre les liens du mariage. Le fait d'ôter leur voile lors de services religieux aurait assimilé les femmes de l'Église à des femmes légères. En se privant de leur voile pour prier et prophétiser à l'occasion de cérémonies religieuses, les femmes mariées donnaient un signal clair de rébellion contre la loi romaine qui exigeait un tel signe extérieur. N'oublions pas que nous sommes au 1er siècle, N'oublions pas que la Judée, la Samarie, la Galilée sont aux mains de Rome. Et sous la domination romaine, le port du voile était obligatoire pour les filles, les épouses, les concubines d'hommes libres et, entre guillemets, les prostituées sacrées. Il y avait des religions où il y avait de la prostitution sacrée. Et les prostituées sacrées étaient voilées. Et ces femmes voilées ne devaient pas être touchées. Elles devaient être respectées. C'est-à-dire qu'aucun citoyen, qu'il soit romain, qu'il soit d'un pays soumis, ne se serait permis de toucher une femme voilée parce que c'était la mort immédiate pour lui. Elle devait pas être... Alors que la femme non voilée, et c'était qui les femmes non voilées? C'était les esclaves, les prostituées non sacrées et les femmes non mariées. Elles ne disposaient d'aucune protection de leur corps. Les Corinthiens, eux, cette église qui venait d'être constituée, commençait à s'émanciper. Et les chrétiennes ne souhaitaient plus se soumettre à une tradition que les hommes leur avaient imposée. Et Paul n'a nullement l'intention d'interdire à la femme l'accès à la prédication et à la prière. Et en ce sens, il est libérateur, il est avant-gardiste. Cependant, il est en prise directe avec une tradition qui enferme la femme dans des obligations qui n'ont pas grand-chose à voir avec la théologie. Et rappelons-nous pourquoi Paul va insister. À Corinthe, il régnait dans la ville, comme dans l'assemblée édifiée par Paul, une telle dépravation, une telle immoralité qu'il a dû y mettre bon ordre. Regardez ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. On le piégeait peut-être. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et un peu plus loin, dans 1 Corinthiens 5, versets 1 et 2, qu'est-ce qu'il nous dit? On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous voyez tout ça d'arriver. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Donc on voit que, en plus de cette moralité, il y avait cette église était. On y trouvait de tout. Mais en plus de cette immoralité, il est régné divers courants sectaires et diviseurs qui tuaient tout esprit de paix et étouffaient la parole de Dieu. Il y avait ceux qui se disaient de Paul. Ah, moi je suis de Paul. D'autres disaient, ah non, moi je suis d'Apollos. Un autre était de troisième, de Tite. Donc il y avait des divisions. Et dans ce fameux chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens qu'on vient de lire, le raisonnement de Paul est malgré tout difficile à suivre. Mais nous pouvons le résumer en quelques points. Premièrement, tout d'abord, il veut éviter de faire entrer dans l'Église des habitudes qui pourraient choquer. C'est-à-dire que pour lui, il part, il a une analyse disant « si j'autorise, si je demande aux femmes de ne pas être voilées, ça va choquer ». Il veut montrer qu'à son époque, les hommes occupent une place et les femmes une autre. Et que les femmes peuvent aussi accéder aux choses spirituelles à condition que tout se passe dans l'ordre. Il y a déjà une contradiction. Le fait d'avoir les cheveux courts pour une femme et de ne pas porter de voile en public est le signe d'une basse condition morale ou de la revendication d'une indépendance, comme j'expliquais, sans tenir compte de la culture de l'époque. Et la femme, en portant un voile ou en ayant les cheveux longs, fait preuve d'autorité. Elle est donc libre de prier. Et dans le même temps, il déclare l'égalité parfaite entre l'homme et la femme, les deux sont des créatures de Dieu. Et dernier point, il nous dit que le voile est une marque d'autorité. La femme obtient un réel pouvoir, agir en toute liberté, en toute décence, c'est cette marque d'autorité. Alors la Bible seconde, la version seconde de 1975, traduit par Exactement, une marque d'autorité dont elle dépend. L'expression dont elle dépend ne se trouve pas dans le texte grec, c'est un rajout. C'est-à-dire que le texte originel n'a pas. C'est-à-dire que ce sont des copies, ceux qui ont rajouté. Si vous avez une Bible seconde, n'importe quoi, vous lirez, et vous verrez, il y a un petit astérix, on vous dit, que ne figure pas dans la version originale. Donc, on a rajouté dont elle dépend. Donc, il convient de traduire tout simplement, donc la femme, a une marque d'autorité. Il s'agit ici d'une invitation aux femmes de l'église de Corinthe de respecter les bonnes manières pour se faire entendre lorsqu'elles prient, prophétisent. Mais le grec, qui est à l'origine, c'est-à-dire le Nouveau Testament, on est toujours dans le Nouveau Testament, qui est écrit en grec, en hébreu certainement, mais en grec, est-ce qu'il nous parle de la marque d'autorité? On a lu Darby, 75, et je vais vous surprendre. La Darby a été évidemment traduite en français, on l'a vu par la marque d'autorité. Mais la Darby est à l'origine anglaise. Alors qu'est-ce qu'il écrit dans la Darby anglaise pour le même chapitre? Alors vous allez excuser mon accent, mais je vous donne la traduction. En anglais, therefore how the woman to have authority on her head on account of the angel. Autrement dit, elle doit avoir l'autorité et non pas la marque d'autorité. Non, tu l'as pas, c'est la Bible anglaise.
J'ai la
Darby. Ah ben, tu la mets en anglais, tu auras ça, mais ça ne va pas vous donner... Non, oui, mais en français, je te dis, c'est, il y a marqué la marque d'autorité. Et en anglais, il n'y a pas. En anglais, il y a l'autorité. Vous allez voir comment ça change. La King James. La King James, c'est, pour ceux qui connaissent, moi je ne connaissais pas, mais j'ai appris à la connaître, c'est la Bible de référence dans le monde anglo-saxon. La King James, c'est vraiment la Bible qui fait référence. Qu'est-ce qu'elle nous dit? For this cause, how the woman to have power on her head because of the angel. La traduction étant doit avoir le pouvoir et non la marque du pouvoir. En dernier lieu, la version latine dont je vous épargne la diction se traduit comme suit. Une femme doit avoir autorité sur la tête et non pas la marque d'autorité. On va me dire, qu'est-ce que ça change? En fait, dans l'original grec, il s'agit bien d'avoir l'autorité et le pouvoir, et non pas une marque d'autorité ou de pouvoir. Et cela modifie le sens de la phrase. Ça change tout. Parce qu'avoir le pouvoir, l'autorité, se comprend dans toute la plénitude de celui-ci. C'est-à-dire que la femme doit être couverte de l'autorité suprême, qui est le Dieu vivant. En avoir sa marque spirituelle, qui ne s'analyse pas par un petit bout de chiffon ou un petit bout de tissu qu'on met. C'est pas la même chose. Au verset 14 et 15, Paul faisait appel à la nature pour tenter d'apaiser les esprits et montrer que dans les milieux sociaux, culturels et géographiques de l'époque où vivent ses destinataires, la femme porte des cheveux longs et le homme des cheveux courts. La différence qui existe entre l'homme et la femme n'a jamais impliqué une quelconque infériorité ou supériorité. Jamais. Ce qui distinguait les femmes dans la société des cités de l'époque, des villes de l'époque, devait les distinguer aussi dans la société religieuse pour Paul. C'était, il faisait un parallélisme, ce qu'on appelle un parallélisme des formes. C'est-à-dire qu'il disait, ben, si dans la société, ben, la femme est voilée, ben, il faut que dans l'église elle le soit. On a bien vu que la traduction réelle, c'est d'avoir l'autorité, non pas une marque d'autorité. Et vous comprenez bien pourquoi Paul amène cette... Alors, le voile posé sur une tête féminine n'a de nos jours plus de signification. La femme a autant d'autorité que l'homme dans la société et dans l'église. Peu importe qu'elle ait des cheveux longs ou des cheveux courts, qu'elle porte un voile ou non. Paul a réhabilité les femmes. Elle n'est plus la marchandise, c'est-à-dire l'esclave ou le jouet des civilisations antiques. Si le souci de Paul dans son argumentation difficile à suivre, était de demander à la femme de montrer à l'extérieur une apparence digne de ce qu'elle était à l'intérieur, c'était pour lui faire prendre conscience que, devenue enfant du Christ, elle devait se différencier de ses congénères, encore attirés par des valeurs passagères et des mœurs légères. Mais la remarque de Paul concernant la dignité dans les assemblées reste valable aujourd'hui, mais elle est autant pour les femmes que pour les hommes. Tant pour les uns que pour les autres. Alors je dirais qu'en conclusion, l'argumentation religieuse concernant le voile des femmes a des bases plus que vacillantes. Hein. Paul ne réussit pas à articuler sa prescription du port du voile par les femmes avec sa tradition théologique. En fait, il a récupéré les usages païens du voile pour les imposer à l'Église, ce qui le mène à renier les libertés nouvelles qu'il avait lui-même prêchées aux jeunes églises. Donc, l'introduction du voile dans la religion chrétienne est donc fondée sur une articulation impossible entre la tradition théologique et les coutumes de la soumission des femmes par le voile. On voit bien que ça ne... On voit bien quand on a lu au départ qu'il y a des choses qui ne cadraient pas. Vous l'avez senti quand vous avez lu en Corinthiens, vous avez bien vu. On voit bien que c'est alambiqué, doit le porter, c'est Christ, bon, il met une hiérarchie, mais... En effet, Paul pouvait-il libérer les chrétiens de la loi et en même temps, sans se contredire, édicter une loi absolument inconnue de la Torah? Parce que c'est ça qui s'est passé. D'un côté, il a dit, vous n'êtes plus, on n'est plus soumis à la loi. On est sauvé par grâce et non. Par nos œuvres, on n'est pas sauvé par une écoute, une application scripturaire de la loi. On est sauvé par la grâce. Et dans le même temps, donc vous êtes affranchis de la loi. Et dans le même temps, il édicte une loi qui n'existe pas dans l'Ancien Testament. En effet, la Torah n'a jamais demandé aux femmes de porter le voile ni de se taire dans les assemblées. Ces coutumes, par contre, étaient pratiquées dans certaines coutumes juives à l'époque de Paul. Alors, et je termine avec ça, soyons et restons dans la liberté du Saint-Esprit, car dans les faits, Dieu jugera toujours au cœur et non aux apparences. Mmh.